Première fois que je me suis retrouvé dans cette situation de donner un discours, c'était, je pense, il y a tout juste 15 ans. Et je m'en rappelle encore. Je me rappelle beaucoup du stress de devoir parler devant un groupe et de devoir articuler des belles idées. Et je voudrais d'ailleurs commencer par dire que je suis assis sur une table juste parce que ça permet que tout le monde m'entende mieux et qu'on se voit. C'est certainement pas... parce qu'il y a quoi que ce soit de position de supériorité, ce qui arrive très souvent dans le monde de la spiritualité et partout ailleurs d'ailleurs. Et du coup, voilà, je saisis l'occasion pour clarifier ça. Et donc là aussi, j'étais assis sur une table. Et depuis, en 15 ans, en fait, ça a été un sacré chemin pour moi, en fait, de voir tout le temps articuler ma pensée, exprimer mon expérience, aller en profondeur, sentir ce qui sonne juste, vérifier ce que je dis pour voir si c'est vraiment quelque chose que je connais, quelque chose que je vis, ou si peu à peu ça devient des enchaînements intellectuels qui vont bien, ce qui est très facile en fait. Donc c'est très fructueux en fait pour moi d'avoir la chance de pouvoir donner des discours, et je comprends pourquoi c'était quelque chose que le Bouddha demandait à ses disciples, quand ils avaient suffisamment de pratique, il leur demandait d'enseigner. Il leur disait, maintenant, c'est plus le temps pour toi d'enseigner parce que ça sera bon pour toi. Et j'imagine que c'était aussi bon pour ceux qui allaient écouter. Mais dans, en tout cas, le Bouddha mettait en avant le fait que ça serait bon pour le pratiquant à un certain moment d'avoir une écoute et de devoir articuler sa compréhension. Et c'est un processus très intéressant, toujours, pour moi, d'être en retraite et de devoir donner un discours. Je pars marcher, je réfléchis, j'essaie de ressentir, en fonction déjà des contacts qu'on a eus, qu'est-ce qui serait bien là, qu'est-ce qui serait utile, quels sont les chemins qu'est-ce qu'il serait bon d'aborder. Et il y a des fois... Il y a des grandes aspirations, des choses très très claires qui me viennent et des directions très claires. Et je viens avec déjà une certaine notion, alors c'est jamais très précis, mais au moins une direction, quelque chose que je voudrais amener à aider à comprendre une pensée qui me parle, ou une réalisation, aborder un certain domaine. Et puis il y a des fois... c'est pas du tout clair en fait, et je vois pas très bien en fait ce que je pourrais dire, ce que je devrais dire, ce qui serait bon de dire. Et ça arrive de temps en temps. Ces fois-là, c'est intéressant parce que du coup, j'en arrive, le rapproche, et puis j'en arrive à me retrouver assis toujours sans vraiment savoir ce que je vais dire. Et donc c'est une de ces fois-là. et je me rappelle les premières fois que j'ai vécu ça, c'était super inconfortable. C'était super inconfortable, imaginez bien, c'était très, ça mettait beaucoup de pression. Maintenant, c'est plus inconfortable. C'est plus inconfortable parce que déjà, ça m'est pas arrivé que 3 ou 4 fois. Hein, c'est assez régulièrement que je vois pas très bien une direction. Et du coup, j'ai développé une certaine confiance dans ce processus de commencer exactement la manière dont je commence, de créer le lien, de créer la connexion et de voir où ça mène peu à peu. Il y a toujours cette envie parfois d'avoir un discours très structuré et parfois de laisser vraiment tout à la spontanéité. Et c'est difficile parfois de savoir quel équilibre entre les deux choisir. C'est des discussions qu'on a beaucoup entre enseignants, ça. Dans quelle mesure et jusqu'où est-ce qu'on prépare un discours? Et jusqu'où est-ce qu'on laisse la place dans un discours pour quelque chose d'autre qui voudrait venir, pour une toute autre direction peut-être? Et un exemple que je prends souvent spécialement dans Dharma Techno et qui est en lien avec ce que je suis en train de dire, c'est en Inde, dans la musique classique. Donc j'ai étudié les tablas dans la tradition classique indienne, et dans la musique classique en Inde, il y a justement dans la musique il est construit, le modèle de relationnel entre l'audience et la personne qui joue, et entre le mélodique et le rythmique, il y a beaucoup d'espace, en fait. C'est-à-dire que le musicien, c'est plutôt des phrasés qu'il va faire dans un contexte d'une histoire. Donc il a un raga, c'est juste quelques notes qui créent une atmosphère. Ça, c'est très strict. Donc ça, c'est son thème, quelque part. Il va avoir, c'est souvent 5 notes avec des règles. Quand il descend, il doit toujours passer de celle-là à celle-là, par exemple. Et du coup, ça crée un feeling. Quand il remonte, par contre, il ne peut jamais passer de celle-là à celle-là. Et ça, c'est la règle du raga. Et puis là-dedans, il peut improviser ce qu'il veut. Et pour pouvoir improviser, en fait, il faut qu'il ait le temps. Sinon, il doit jouer tout des trucs qu'il connaît. Et alors, dans la musique, eh ben, il y a le temps. C'est-à-dire qu'il peut très bien, par exemple, si c'est un chanteur, ben, autour de lui, il y a un harmonium, une espèce de petit piano avant, il y a une ou deux tempuras qui font une espèce de son drone, une nappe, en fait. Et puis, il y a parfois aussi un ou deux autres instruments qui sont un peu en arrière et qui le soutiennent. Et de temps en temps, eh ben, c'est ces instruments-là qui font quelque chose, et lui, il est là, il attend. Et puis, quand lui vient une inspiration, il laisse l'inspiration sortir par sa voix. Et ça permet en fait de ne pas tout jouer quelque chose qui a été appris. Ça permet à quelque chose d'autre de rentrer, de prendre la place. Mais pour ça, il faut que le musicien se sente suffisamment en confiance. Tout est basé sur la confiance. S'il n'a pas suffisamment confiance que quelque chose va venir, alors il n'osera pas se poser comme ça et il va jouer des trucs qu'il a répétés dans sa chambre. Et dès qu'il y aura un peu d'espace, il va se demander qu'est-ce que je joue maintenant, sans se permettre juste d'avoir du vide et du silence. Et l'audience est tout à fait OK avec le vide et le silence en Inde. Quelque chose que j'ai remarqué quand je faisais donc pendant une période, j'ai fait des petits concerts de musique classique indienne en France et en Belgique. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que pendant les concerts, donc je jouais, c'était souvent avec un sitariste, j'accompagnais donc un sitariste, et c'est que pendant les concerts, donc quand il y avait une audience, il se passait quelque chose qui ne se passait pas quand on jouait à deux en répète. Il se passait des moments magiques, on appelait ça des moments magiques, où subitement, quelque chose qu'on n'a pas du tout répété s'invite. Et du coup, on est presque nous aussi l'audience de quelque chose en train de se passer. On entend en fait une musique qui se produit dans nos mains et qui parvient à nos oreilles et qui nous surprend. Ça peut être, on joue quelque chose et tac, sans l'avoir prévu, on s'arrête en même temps et tac. Hop, on repart en même temps. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on avait répété. Ou on va faire une petite formule rythmique qui en répétition à un moment comme ça et on sait pas d'où c'est venu. Et ça vient jamais en répète. Ça vient toujours en concert. Et j'en suis venu à comprendre que en fait c'est parce que dans le moment du concert il y a une audience et du coup il y a beaucoup d'attention. Et cette attention, en fait, cette attention qui est là en ce moment, elle n'est pas du tout neutre. Elle n'est pas du tout insignifiante, en fait. Par exemple, articuler ma pensée comme je le fais maintenant si j'étais tout seul dans une prairie ou comme je viens d'essayer de le faire dans le chemin, ben, ça ne fonctionne pas bien. Mais maintenant qu'il y a une attention, eh bien, il y a quelque chose de commun, en fait. Il y a une co-création. Et c'est là-dessus, en fait, que se repose, je pense, tout bon musicien ou tout enseignant, en fait. C'est aussi dans la confiance qu'il va y avoir cette atmosphère d'une écoute, et souvent dans des cadres comme ceci, d'une écoute généreuse, d'une écoute bienveillante, et que cette écoute généreuse et bienveillante va nourrir le discours, va inspirer le discours. Le discours ne doit pas être pré-mâché et tout prêt, avec quelque chose de bien clair à délivrer. Il peut se laisser inspirer de l'atmosphère qui est là dans la pièce. Cette atmosphère qui passe par l'attention et la présence de chacun. Donc ce discours, en fait, pour moi, il n'est pas juste mon discours, il est le discours de ce moment tous ensemble. Il y a, j'aime beaucoup Nisargadatta Maharaj, que certains d'entre vous ont déjà lu, un maître indien de l'Advaita. Et donc j'ai beaucoup, je l'ai lu pendant très très longtemps, et du coup j'ai beaucoup de citations qui me viennent de lui, et là ça me fait penser à un passage dans un livre, c'est des questions-réponses. Et il y a donc quelqu'un qui lui dit, bon, vous dites tout le temps que vous n'êtes pas votre corps, hein, bon, alors ne plongez pas dans cette direction-là, c'est pas là que je veux aller, mais bon voilà, c'est ce qu'il dit tout le temps, voilà, il n'est pas du tout identifié à son corps. Donc vous dites tout le temps que vous n'êtes pas votre corps, mais moi je vois bien que vous vous levez le matin, vous asseyez là, et voilà, vous faites ceci, cela, comme tout le monde. Alors il répond, ben, il dit, parce que vous croyez que vous êtes votre corps, du coup vous pensez que moi je suis mon corps. Déjà, ça, je trouvais ça très intéressant. Parce que vous pensez que vous êtes votre corps, automatiquement, vous pensez que moi, je suis mon corps. C'est votre formule, c'est votre schéma. Et le gars lui répond, ok, d'accord, mais là, je suis assis là, je vous pose des questions et vous répondez. Et lui, il dit, ben, ça, c'est parce que vous voyez que vous posez une question et que moi, je réponds. Moi, pour moi, dans mon expérience, une question se pose et j'entends une réponse. Il y a quelque chose de ça dans la performance musicale, il y a quelque chose de ça dans le fait d'un discours, du fait de cette attention qui est portée et qui va en fait donner, qui va porter en fait celui qui est dans le moment en train de donner quelque chose, de faire passer quelque chose, de délivrer quelque chose. Et il y a un petit film sympa, alors j'essaie de retrouver le nom, je ne retombe plus dessus, je vous le communiquerai quand je m'en rappellerai. C'est une vidéo qui a été faite par un petit reportage qui a été fait par un Indien qui est né aux États-Unis et qui a grandi aux États-Unis et qui, lui, avait fait du yoga, était intéressé un peu par la spiritualité, avait été voir des maîtres et tout ça, mais se demandait toujours un petit peu si c'était pas un petit peu aussi de la daube, cette histoire de maître et tout. Enfin voilà, il avait un coup d'œil assez critique sur le truc, et si c'était pas le fait que tout le monde soit derrière, qui en faisait un maître et tout ça. Et donc il a décidé de faire une expérience que j'ai trouvée très très intéressante, et je vous le... À Kumaré, ça s'appelle. Kumaré. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce... et sa démarche et la manière dont il a monté son expérience. Il est parti dans une région où personne ne le connaissait. Il est arrivé dans une ville et là, il s'est institué grand maître de yoga gourou. Et donc, il a mis des affiches partout. Il a créé un nom à son, je me rappelle plus comment c'était. Alors, il y avait des trucs assez rigolos. En plus, il avait le sens de l'humour. Et puis, il a créé toute une philosophie qui allait avec. Voilà. Et puis, alors, il délivrait sa philosophie. Il y avait des postures de yoga spécifiques. Et puis, enfin, c'était tout un concept qu'il a fait. Il a commencé à présenter ça. Et puis, il y a 4-5 personnes qui sont venues. Et puis, 10 personnes. Et puis, finalement, il avait un bon petit groupe de personnes qui, vraiment, peu à peu, le portaient en maître. Et je pense que quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ce film, je suis même plus sûr que ce soit dans le film, je crois que c'est dans un TED Talk que j'ai vu après où il parlait de ce film et où il disait que lui, quelque chose l'avait touché, c'est que pendant ce temps où tous les gens lui accordaient autant d'importance et d'attention, lui, il se sentait, il avait une capacité d'écoute de chaque personne qui venait, il avait une empathie, il avait une présence, ça lui était donné par le contexte. Et du coup, il se retrouvait avec une forme de sagesse même, qui ne lui appartenait pas vraiment, mais qui lui venait de la manière dont tout son public le considérait, le respectait et l'écoutait. Je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant à comprendre là-dedans. Je pense que ce serait très intéressant, c'est important que tous les gens qui sont dans une situation comme par exemple moi et d'autres enseignants de méditation, on garde toujours ça à l'esprit, que c'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas notre sagesse. Ça nous appartient pas. C'est le fruit d'un contexte qui nous dépasse de l'intérieur et de l'extérieur qui nous dépasse grandement. Et donc, tout ça parle, tout ça tourne autour de cette attention. L'attention est le centre de ça. C'est parce que si par exemple, on était dans un bar et que vous étiez tous là, mais que personne n'écoute, ça ne viendrait pas comme ça. Ça ne serait pas possible. Donc, quand on faisait des concerts de musique classique indienne, on refusait de jouer si le contexte n'était pas propice à ce que les gens soient attentifs. Parce qu'on savait bien que du coup, on allait être comme dans notre chambre à pratiquer des trucs. Ça n'allait pas fonctionner, ça ne serait pas un vrai concert. Il fallait l'attention du public pour que la musique vienne. La musique ne pouvait venir que s'il y avait la participation de chacun. Et pas juste de deux musiciens. Je pense que c'est important ça, parce que ça donne une unité dans le processus. Plutôt que de dire, ah c'est des bons musiciens. C'est pas juste des bons musiciens, ça dépend de l'audience aussi. Ah c'est un bon enseignant, c'est pas juste un bon enseignant, ça dépend de l'audience aussi. Et en méditation, et dans la manière, sur mon chemin spirituel, je pense que c'est une des choses qui me... Une des plus grandes questions et un des plus grands centres d'intérêt, c'est cette attention elle-même. La nature de cette attention. Qu'est-ce qu'elle est? Sa relation avec moi? Qu'est-ce que c'est moi en dehors de cette attention? Quel est son fonctionnement? Sa source? Est-ce qu'elle peut se voir elle-même? Et donc en méditation, c'est pour moi, d'abord la première chose que je fais, peut-être pas la première chose, mais je vais dire la démarche que je vais avoir en méditation, ça va être de désengager l'attention qui est prise dans la pensée. Donc là maintenant, si vous étiez tous avec des histoires émotionnelles très fortes et du coup incapables d'écouter ce discours, eh ben ce serait pas du tout pareil et vous ne pourriez plus entendre ce discours. Si une personne ici pour le moment est prise par une histoire très très forte, son attention est hijackée, elle est piratée en fait par la pensée et du coup il y a plus la connexion avec ce discours, il y a plus cette unité en fait. Et donc la première chose que je vais faire, c'est de dégager l'attention, cette attention, mon attention, disons pour le moment, de la dégager de la pensée. Pour la dégager de la pensée, j'utilise la respiration. J'aime bien, il y a d'autres supports, en fait, tout ce qui est observable peut être un support, mais la respiration, c'est tout le temps là, c'est assez facilement perceptible. Donc voilà, et puis il y a aussi de poser l'attention sur la respiration, il y a quelque chose qui pose et qui met en contact avec soi. Mais le but est donc déjà de ne plus laisser l'attention dans le monde de la pensée. Elle repart, on l'a vu, hein. Je pense que c'était l'expérience, j'imagine, pour tout le monde, ou plus ou moins tout le monde. À un moment, elle repart, et puis elle reste un petit peu là. Et puis après ça, on le réalise. Et là, puisque c'était notre intention, on la ramène de nouveau sur la respiration, on la redégage de la pensée. Et en fait, c'est très différent, notre expérience. Le moment où notre attention est dans la pensée et le moment où notre attention est sur la respiration, c'est pas du tout la même expérience. Notre univers change. Notre ressenti, notre vécu, notre moment est très très différent, en fait. Et donc, on peut remarquer que, en fonction de là où l'attention se trouve, notre expérience change. Si notre attention est dans des pensées, automatiquement, notre expérience va avoir une certaine couleur. Suivant la nature de la pensée, la couleur va changer. Si c'est des pensées difficiles, eh ben, on va vivre un moment difficile. Si c'est des pensées heureuses, on va vivre un moment heureuse. L'attention va donner vie à ce moment. Si on dégage notre attention et qu'on la ramène sur la respiration, à ce moment-là, il va y avoir autre chose comme ressenti et ces pensées ne vont plus être nourries. Donc, elles vont disparaître. Peut-être pendant 2 secondes, mais peut-être après pendant plus longtemps, à certains moments de notre expérience. Ces pensées qui étaient là, puis qui parfois sont très prenantes, ne sont plus là. Donc on peut constater, quand on pratique la méditation, que l'attention a le pouvoir, quelque part, de donner vie. De donner vie à quelque chose dans notre expérience. Donc là où se trouve notre attention va créer notre univers, va créer notre expérience, va créer notre quotidien. Quand on remarque ça, et on peut le remarquer dans la pratique de la méditation, on commence à avoir envie d'être un peu plus sélectif. Avec, notamment avec le monde extérieur, ça peut être avec ce qu'on regarde à la télévision par exemple. Ça va créer notre univers. D'autant plus qu'un film qu'on va regarder à la télévision, on va passer un certain temps avec notre attention là, et du coup, on est ça, on vit ça, c'est notre univers, c'est ce qu'on vit dans ce moment-là, mais on en aura des réminiscences, parfois pendant plusieurs jours. Ça reviendra pendant la pensée, et on reviendra avec cet univers, dans cet univers. Alors, on choisit les univers dans lesquels on a envie de vivre, et les univers qu'on n'a pas envie de nourrir et d'encourager. On commence à discerner peu à peu ce qui nous est bénéfique, et ce qui crée en nous des tensions, de la difficulté ou de la souffrance. On commence à devenir plus sélectif ce qu'on veut laisser rentrer en nous, par le champ de notre attention. Tout ce à quoi on va porter attention va grandir. Et les choses auxquelles on ne portera pas attention ne grandiront pas. Par exemple, on disait ça avec Lydia, ma compagne, c'est un potager, c'est comme ça. Plus vous y accordez de l'attention, plus le potager sera beau. Un enfant, il y a eu, je pense, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est l'histoire, mais une histoire terrible de... Pendant la guerre, je pense qu'il y a eu des bébés ils étaient rassemblés, je pense, parce qu'ils n'avaient plus de parents, et il y avait juste quelques personnes complètement débordées qui juste les nourrissaient, mais pas plus parce qu'elles n'avaient pas le temps, et puis voilà, c'était pas possible. Ils ont grandi pendant un certain temps, en fait, sans avoir d'amour, sans avoir d'attention, sans avoir vraiment quelqu'un qui est là, qui leur parle, qui est avec eux. Et en fait, ces enfants étaient tous dysfonctionnels. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'attention nécessaire. Les enfants ont besoin de l'attention pour grandir. Les choses, un projet artistique, par exemple, demande notre attention. Si on ne donne pas d'attention à notre projet artistique, il n'y aura pas de projet artistique. Les choses ont simplement besoin, ça paraît tout bête à dire, mais en fait, il y a un processus beaucoup plus fin à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est cette attention qu'on donne? Pas juste l'action, mais vraiment l'attention elle-même. De nouveau, une citation de Nisargadatta Maharaj qui disait que si notre chemin spirituel était notre seul intérêt, la réalisation ne serait pas si longue à venir. C'est parce que nos intérêts sont divers et que du coup notre attention est diverse puisqu'elle suit nos intérêts. Qu'on y va, mais on a même des intentions et des intérêts contradictoires, et du coup le chemin est beaucoup plus long. Si toute notre attention était dédiée constamment à notre chemin spirituel, si à chaque moment, chaque geste, chaque pensée, chaque acte était en direction de notre éveil spirituel, ce ne serait pas un chemin qui serait si long. Alors en méditation, on commence à reconnaître cette attention, à la ressentir, à reconnaître, à savoir quand elle est là. C'est assez bizarre, c'est difficile à mettre en mots, et à reconnaître là où il est bon de la laisser et là où il n'est pas bon de la laisser. Et notamment, on va reconnaître dans les pensées qu'il va y avoir des pensées qui vaut la peine de nourrir, même en méditation. Il y a parfois certaines pensées, par exemple une belle compréhension. Ce serait dommage de la quitter tout de suite et de revenir à la respiration. Il faut passer un peu de temps avec elle, il faut changer un petit peu la perspective, il faut se laisser infuser en fait de cette belle compréhension pour qu'elle puisse nous transformer. Juste la quitter parce que c'est une pensée et revenir à la respiration, ce serait dommage. Donc on se met à discerner en fait ce qui est fructueux, ce qui est bon pour nous, de ce qui n'est pas bon. Et par contre, quand on voit des histoires qui n'ont aucun sens, voire des histoires qui détruisent nos relations à nous-mêmes, nos relations aux autres, à ce moment-là, on apprend à les quitter. On apprend à quitter ces histoires. Et parce qu'on sait, on remarque que quand on laisse notre attention dans une histoire, par exemple une histoire émotionnelle, une dispute avec son conjoint, avec un voisin, avec un ami ou quelque chose comme ça, et quand on laisse l'attention prise dans les remous de cette histoire, alors, elle a besoin d'y être pendant un certain temps, et de réfléchir à ce que j'aurais pu dire, à ce qu'il faudrait dire, à ce qui s'est vraiment passé. Mais on connaît tous ce moment où ça dépasse complètement les limites et ça devient obsessionnel. Et en fait, l'attention est captivée, elle est capturée. Ce qui veut déjà dire que c'est très problématique parce qu'elle ne peut pas être ailleurs. Peut-être on a un autre ami qui est là à table et du coup on est tellement pris par notre histoire qu'on n'a plus d'attention pour notre ami. Ou on boit un bon vin et en fait on a fini le verre et on n'a même rien goûté. Ouais, parce qu'on est pris dans notre histoire, l'attention est ailleurs. On n'a pas pu la mettre dans le goût du vin. Mais ça pose aussi le problème que peu à peu, on donne vie à une histoire. On donne vie à une histoire, c'est-à-dire qu'on permet à une histoire de se construire à l'intérieur de nous, qui déjà nous fait sentir pas bien. Cette histoire, c'est des histoires souvent où il y a de la critique intérieure, de la critique de l'autre, du jugement, de la condamnation, peut-être de la colère, de la haine. Vous voyez bien ces histoires dont je parle. Et donc, ça nous tient, on vit, puisque notre attention est là, c'est notre univers, c'est notre expérience dans le moment, c'est pas agréable, mais en plus, on est en train de donner vie, de créer une réalité. Notre réalité. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais croiser mon voisin, si j'ai passé 17 heures dans ma tête à ressasser, peu à peu, c'est devenu une grosse histoire. Et après, quand je croise le voisin, ça se trouve, je lui hurle dessus et lui, il comprend rien parce qu'il n'était pas là pendant tout ce temps-là. Et en fait, on est complètement en décalage avec la réalité des faits, parce qu'on s'est laissé envahir, ou plutôt on a laissé notre attention être capturé dans une construction, papancha, ils appellent dans le bouddhisme, une construction d'une réalité, parce que ça devient notre réalité. On voit les choses comme ça, on vit les choses comme ça, on vit la justice, on ressent la justice, on a construit toute une argumentation qui n'est étayée profondément par rien, mais dû à nos fragilités, dû à nos peurs et tout ça, on a créé tout un monde qui devient notre réalité. Et on fait tout ça. Ça tient un peu de l'asile psychiatrique, mais on fait tout ça. C'est une maladie de l'esprit qui est dans la norme. Et donc, on apprend en méditation à repérer ça. Pas simplement quand on est assis sur le coussin, là c'est là qu'on s'entraîne, mais après ça c'est dans le quotidien qu'on apprend à repérer. Ouh là là! Là, ok, je quitte. Parce qu'on apprend aussi à quitter, à lâcher. C'est pas facile. Plus il y a de l'émotion, plus c'est difficile à lâcher. Mais on apprend à lâcher parce qu'on a reconnu dans notre expérience, quand on était sur le coussin en méditation, le côté toxique, le côté complètement non fructueux de ce processus. Et du coup, on apprend à plus le lâcher. Plus facilement le lâcher. Et si on arrive à le lâcher suffisamment longtemps, alors, pendant un temps, il n'apparaît plus. Parce qu'il n'a pas été nourri. Ça tourne en boucle parce que notre attention reste piégée. Si on arrive à dégager notre attention et à la mettre ailleurs, ça s'arrête. Parce que ça a besoin de notre attention pour vivre. tout ça, je le dis comme si c'était des vérités universelles, mais chacun doit le vérifier dans son expérience. Ça doit devenir quelque chose que, pour que ce soit vrai, il faut que vous le voyez. Que vous voyez que quand vous dégagez votre attention de la pensée s'arrête. Est-ce que c'est vrai, ça? Et le voir encore et encore et encore. Et l'essayer quand il y a une pensée un peu... vous pouvez l'essayer avec des choses pas trop difficiles. Ben, vous pouvez l'essayer aussi avec des choses difficiles, mais ça marche moins bien. Avec des choses pas trop difficiles, de quitter cette pensée. Ah tiens, je vais la quitter là, maintenant. Pour quitter une pensée, il faut amener l'attention ailleurs. C'est pas juste, oh, je vais quitter la pensée, comment est-ce que je fais? Non, en fait, on n'arrête pas de penser. On s'intéresse à autre chose. On ne bloque pas la pensée, on arrête de la nourrir. Vous voyez, c'est fin, mais c'est pas pareil. On dégage, on arrête de porter intérêt et de prêter attention à ce processus parce qu'on reconnaît qu'il est malsain et on porte attention, on fixe notre attention ailleurs. Et du coup, ça s'arrête. Cette histoire, de nouveau, que je raconte très souvent, donc certains d'entre vous la connaissent, mais je la trouve très très parlante, d'un jour où j'étais avec mon fils qui était beaucoup plus petit et il faisait très chaud et il s'était frotté des plantes sur le torse, il m'avait dit « Oh papa, c'est sympa, ça fait tout frais ». Et puis, une minute après, il faisait « Papa, ça gratte ». Puis « Ah bah, ça gratte très fort ». Et puis là, ça commence à gratter, il commence à avoir des boutons, et puis alors là, ça gratte. Et alors là, il était en panique, et puis ça le démangeait de partout, et puis il pleurait, il criait « Papa, ça gratte, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je ne savais pas quoi faire, moi. Et puis, on n'était pas loin de la maison. On vient vite à la maison. Je le douche un coup, mais ça ne fait pas grand-chose. Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et là, j'ai une idée géniale. Je me dis, on va mettre Bip Bip et Coyote à l'ordinateur. Vite, vite, un peu dans la panique, là, parce que lui, c'était énorme. Un peu dans la panique, vite, j'ouvre l'ordinateur, je tape Bip Bip et Coyote. Je l'installe devant, et là, vous rappelez les Lonely Tunes, là. Dès que ça a commencé, pendant tout Bip Bip et Coyote, il n'y a pas eu une plainte. Parce que son attention n'était plus appelée par les démangeaisons. Elle était captivée ailleurs. Du coup, sa réalité avait changé. Et on peut même se poser la question, on ne va pas rester sur celle-là parce que c'est presque un Koran, mais à partir de... Imaginez, il y avait ces démangeaisons, le dessin animé commence, son attention est complètement captivée par le dessin animé. Plus une plainte, il est complètement dedans. Il ne sent plus que ça gratte. Est-ce que ça gratte encore? Ou est-ce que pour que ça gratte, il faut qu'on sente que ça gratte? Non, mais c'est rigolo, mais on peut les pousser loin, ces questions-là, c'est des questions profondes, en fait. En méditation, on parlait d'acouphènes, là, tout à l'heure, où il y a des douleurs qui sont récurrentes ou des choses comme ça. Est-ce qu'un acouphène est présent quand je ne l'entends pas? Est-ce que j'ai une douleur qui est dans le dos et puis il y a pendant un moment dans ma méditation où je suis vraiment bien avec ma respiration, par exemple. Du coup, je ne sens plus cette douleur. Est-ce que la douleur existe toujours? Ou est-ce que la douleur a besoin que je la sente pour exister? Donc notre attention et ce dans quoi elle est engagée est déterminant. Absolument déterminant dans notre expérience, dans notre réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais aussi qu'il faut constamment expérimenter. Et à partir du moment où ça devient un petit peu clair, ça ouvre des portes énormes sur des manières de vivre et des manières de relationner au monde. Moi, ce qui m'intéresse en méditation, en fait, c'est... Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais une des choses prédominantes dans ma recherche, c'est, comme je le disais au début, la nature de cette attention. La source, la texture, la relation avec qui je suis. Qu'est-ce que c'est, cette attention? Et c'est encore une question qui met l'esprit à l'envers un petit peu, mais par contre, dans la pratique de la méditation, on peut réellement s'y intéresser, on peut réellement devenir familier avec avec cette sensation, en fait. Attendez, je vais m'y prendre autrement. Quand je vais pratiquer la méditation, je vais amener mon attention à la sensation de la respiration. Du coup, les pensées vont pouvoir se poser parce qu'elles n'ont plus l'attention. L'expérience va être l'inspire et l'expire. Mais mon intérêt réel n'est pas ni la non-pensée, ni la respiration. C'est la sensation d'être présent. Mon intérêt réel, c'est la sensation d'être présent, c'est cette sensation quand il y a la respiration, il y a je m'intéresse en fait à ceux qui observent la respiration plutôt qu'à la respiration elle-même. Donc c'est ça la sensation d'être présent. C'est ce qui est témoin d'eux. Donc toute perception en fait va confirmer ma présence. Un son va me faire sentir que je suis présent. C'est pas le son lui-même qui va m'intéresser, c'est cette sensation de présence. Le son va s'arrêter, une douleur va, parce qu'elle est perçue, va confirmer cette présence, va confirmer que l'attention est là. Attention, présence, je les mets là, vous voyez, dans le même sac. Quand il y a une attention, il y a présence. C'est cette sensation de présence, pour moi, qui est mystérieuse et qui me semble être le cœur de ce que je suis vraiment. Et parfois, il va y avoir cette sensation de présence avec de moins en moins de perceptions. Et juste une sensation de présence et quelques perceptions. Ça m'intéresse déjà parce que c'est assez agréable. Ça parle aussi de connaissance de soi. Là, on parle de connaissance de soi à un niveau déjà assez profond. C'est pas « moi je me connais, je suis comme ça, j'ai l'habitude de faire ceci, ça je suis pas capable, voilà, j'ai grandi comme ça ». C'est plus de ça qu'on parle. Plus du tout de ça, ça n'est, c'est plus là. Ah, si c'est plus là, est-ce que ça existe encore, comme la douleur? C'est plus là. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas, d'identité. Il n'y a pas une identité de nid avec toute une histoire qui est là en train de méditer. Il y a une sensation de présence, quelque chose d'assez calme et des perceptions dans cette sensation de présence. Et chaque perception, en soi, ne m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse, c'est de devenir familier avec cette sensation d'être présent pour avoir la sensation que je suis en contact avec moi-même, au plus profond de moi-même. Parce que quand... je sens au fur et à mesure de ce cheminement que cette familiarité avec les profondeurs de moi-même me permet d'être plus léger dans le monde, d'être moins agressé par le monde, et d'être moins dépendant du monde. Je dis pas du tout que j'y suis, que c'est ça qui se passe dans mon quotidien, et je suis aussi agressé et dépendant par le monde, mais de connaître cet endroit de moi-même dans lequel j'existe sans avoir une identité aussi forte et tout le temps présente, me permet d'avoir plus de souplesse dans mes échecs plus de confiance aussi, beaucoup plus de confiance. Parce que tout ça bouge, là, tout ça bouge, tout ce monde bouge, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. Et que ce quelque chose qui ne bouge pas est plus moi que tout le reste. Tout ce qui bouge et se transforme. Dans des moments, j'ai pas l'impression que c'est moi qui bouge et me transforme. Et c'est pas du tout des états supramystiques. N'en faites pas quelque chose de... Il y a une grande simplicité, en fait. Et c'est beau la méditation. C'est beau la méditation, c'est beau ce qu'on fait là, de se poser calmement, de laisser le corps. Voilà, on va le mettre comme ça pendant 45 minutes, on va pas faire grand-chose avec. Puis, de tourner cet esprit, faire une recherche. On a des questions, on est porteur de questions. On a de la confiance, on laisse cette confiance travailler en nous, on cherche, on observe. Le corps, lui, ne bouge pas, c'est dedans. Et puis parfois, à certains moments, quelque chose se pose, la pensée est un petit peu silencieuse, elle ne capte plus autant l'attention, et du coup, il y a cette sensation de présence. Un peu, c'est déjà beaucoup. Si on a de temps en temps un peu, c'est déjà beaucoup. Puis si on chemine et qu'on continue, ça s'affine. Pas des grands états, c'est pas de la lévitation, c'est parce que parfois on entend. Peut-être il y a des choses comme ça, je les connais pas. Ou des pouvoirs, ou des... En fait, ça n'attire même pas mon intérêt. Et puis quand on a des petits moments comme ça, et puis qu'on ouvre la porte et qu'on va dehors, on voit des choses, on les voit pas pareil. On voit une feuille, on voit un nuage, on voit une personne, on voit un sourire. On voit des choses, on voit plus pareil. On est sensible. On est ouvert. Ça repart. C'est comme un jeu, puis on y revient. On s'y intéresse. C'est comme un jeu, mais c'est un jeu qui a un enjeu, en fait. Parce que, aussi, dans... certains le disaient dans le groupe de partage, là, on sent aussi cette pression du monde autour de nous, et de trouver cet endroit de nous-mêmes qui a sa vie... comme indépendante en fait du résultat de la folie du monde, c'est s'il y a une sécurité, c'est là. Et s'il y a une manière de trouver notre voie dans ce monde et comment on va parce qu'on se sent en sécurité, réussir à poser notre voie dans ce monde et aller poser des actes. Sans aller vers un burn-out ou juste être une boule de colère, eh ben ce sera de là. ça sera de cet endroit-là, de cet endroit où on ne dépend pas, de cet endroit-là où on ne dépend pas du résultat. Est-ce que ça veut dire tout chaud, quelque chose, tout ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est à chacun, en fait, de traduire ces mots en question et trouver des chemins pour aller voir? Merci pour votre attention.